Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le mois d'août est consacré au cœur immaculé de Marie. Pour mieux pratiquer cette dévotion, dont sœur Lucie de Fatima nous a dit qu'elle était, avec le rosaire, les deux derniers recours donnés par Dieu pour le salut des hommes, il faut chercher à mieux la connaître afin de mieux l'aimer, d'en avoir une dévotion tendre et affectueuse, comme la petite Jacinthe de Fatima qui disait à sa cousine Lucie « J'aime tellement le cœur immaculé de Marie, c'est le cœur de notre petite maman du ciel. » Voyons tout d'abord quelques considérations sur le cœur immaculé de Marie. Le cœur, tout d'abord. Le cœur de Marie récapitule et exprime le plus exactement tout son être. Son âme, toute remplie de l'Esprit Saint, son intelligence, pleine d'une sagesse insondable, et sa volonté souveraine, infatigable et sans cesse agissante, que l'amour enflamme tout entière. Ce cœur est immaculé. Marie a été prédestinée avant tous les siècles à devenir la mère très pure du Sauveur. Elle a été préservée du péché originel, rachetée d'avance par son Fils. Elle est la conception immaculée du Père et du Fils qui la comble dès le premier instant de sa création de la plénitude de l'Esprit Saint. On peut dire que l'Immaculé est une eau pure jaillie de l'unique source divine du Père et du Fils. Au pied du trône de la croix, elle reçoit leur surabondante plénitude de grâce et de miséricorde. La grâce de l'Immaculée Conception et la plénitude initiale de charité a eu des conséquences, dit le Père Garrigou-Lagrange, elle augmenta considérablement en Marie sa capacité de souffrir du plus grand des maux qu'est le péché. Puisqu'on souffre, d'autant plus qu'on aime davantage Dieu que le péché offense, et les âmes que le péché mortel détourne de leur fin, et les rend dignes de la mort éternelle. Le cœur immaculé de Marie, continue le Père Garrigou-Lagrange, fut ainsi douloureux dans la mesure où il était immaculé et très pur, dans la mesure où la plénitude de la charité ne cessa de grandir en elle jusqu'à la mort. Quand on dit « cœur immaculé », on rappelle ce qu'elle a reçu au premier instant de sa conception. Quand on dit « cœur douloureux », on rappelle tout ce qu'elle a souffert et offert pour nous en union avec son Fils, depuis les paroles prononcées par le vieillard Siméon jusqu'au calvaire et jusqu'à sa mort peu avant l'Assomption. Les paroles du Père Garrigou-Lagrange sont comme un écho, une explication de l'événement suivant. Le 8 septembre 1911, notre Seigneur manifeste sa volonté concernant ce qualificatif de douloureux à Berthe Petit, une âme victime tertiaire franciscaine, née en 1870 en Belgique et morte en 1943. Le cœur de ma mère, dit notre Seigneur, a droit au titre de douloureux et je le veux placer avant celui d'Immaculée parce qu'elle l'a acquis elle-même. L'Église a reconnu en ma mère ce que je fis moi-même, sa conception immaculée. Il faut maintenant, et je le veux, que soit compris et reconnu le droit qu'a ma mère à un titre de justice, titre que lui ont valu son identification à mes douleurs, ses souffrances, ses sacrifices, son immolation au calvaire, acceptée dans une pleine correspondance à ma grâce et supportée pour le salut de l'humanité. C'est dans cette co-rédemption que ma mère fut surtout grande, et c'est pourquoi je demande que l'invocation « Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous » soit approuvée et répandue dans toute l'Église. Les prélats de l'Église réagirent favorablement à cette demande pendant la Grande Guerre de 14-18 poussé par la dureté des temps. Tout d'abord, le pape Benoît XV, qui accorda le 28 septembre 1915 une indulgence de 100 jours à ceux qui réciteraient la vocation. Puis le cardinal Bourne, archevêque de Westminster et primat d'Angleterre, non seulement il accorda une indulgence de 100 jours à la vocation, en mai 1916, mais consacra solennellement l'Angleterre à Noël 1917 au cœur douloureux et immaculé de Marie. Ces deux invocations, cœur douloureux et immaculé de Marie et cœur immaculé de Marie, se rapportent à la même dévotion mariale. Le but est le même, voulu par notre Seigneur, répandre la dévotion mariale, dernier recours pour nous sauver. À Fatima, notre Seigneur, Notre-Dame dit que Jésus veut établir dans le monde la dévotion à son cœur immaculé et promet le salut à celui qui embrassera cette dévotion. Et sœur Lucie expliquera en 1957 au père Augustin Fuentes que le rosaire et la dévotion au cœur immaculé sont les deux derniers remèdes donnés au monde. À Berthe Petit, en 1940, il a dit la même chose. La dévotion au cœur douloureux et immaculé de Marie est le dernier secours que Dieu donne avant la fin des temps. Alors essayons de mieux connaître ce cœur douloureux. La Vierge Marie, étant parfaite, n'a pas souffert comme nous des conséquences de nos défauts, de nos affections déréglées, de nos erreurs et des fautes que nous commettons. Jusqu'à l'incarnation, elle a surtout souffert de voir Dieu si peu aimé et si gravement offensé. À partir de l'incarnation, ses souffrances sont en rapport avec Jésus. Ça commence à la naissance. Ils sont rejetés de l'hôtellerie à Bethléem. Elle doit mettre au monde l'enfant Jésus dans une grotte. Ensuite, il y aura la fuite en Égypte pour éviter le massacre. Mais ces souffrances sont surtout des souffrances extérieures qui se fondaient dans la joie de posséder Jésus. La première grande souffrance, qui fut une souffrance intérieure, est la prophétie de Siméon lors de la présentation de l'enfant Jésus au temple. « Un glaive de douleur transpercera votre âme. » Les premiers effets de la venue de Jésus montraient à Marie que sa voix devait désormais devenir une voie de sacrifice. La prophétie de Siméon souleva un coin du voile. Ce glaive annoncé lui perçait déjà le cœur, et la blessure ne se refermera plus. Pendant les 30 ans de la vie cachée, cette peine et la joie de la présence de Jésus coexistent dans son cœur. La présence de Jésus vient adoucir cette peine. Pendant les 3 ans de la vie publique de Jésus, Marie a eu 2 sortes de souffrances. Premièrement, la séparation d'avec Jésus, qui avait été préparée lors du recouvrement au temple. Il fallait que Jésus soit aux affaires de son Père. Marie comprit qu'elle n'avait pas le droit de reposer son cœur en son Fils, comme les autres mères le font à leurs enfants. Elle devait se désapproprier de Jésus et de la joie maternelle de l'aimer, pour le laisser tout à Dieu, qui ne lui a donné qu'en vue des hommes. La deuxième souffrance de Marie pendant la vie publique, c'est de souffrir, de voir son Fils progressivement combattu, puis haï par les autorités religieuses, malgré le bien qu'il avait répandu à profusion. Enfin, les menaces de mort lui firent comprendre que l'heure de Jésus serait aussi celle du glaive prédit par Siméon. Il faut remarquer que la Providence aurait pu épargner à Marie pendant toute sa vie cachée la perspective de la passion. Il aurait été bien temps de souffrir alors. Mais au contraire, la Providence a voulu, dès la présentation au temple, lui ouvrir cette souffrance dans le cœur. C'était dans le but que ces souffrances atteignent le maximum au pied de la croix, et que Marie en soit d'autant plus grande et plus belle. Laissons Saint Bernard nous parler de ce glaive qui transperça l'âme de Marie au calvaire. Quand votre Jésus, dit-il, eut rendu l'esprit, la lance cruelle qui lui ouvrit le côté n'a pas atteint réellement son âme, mais cependant elle a atteint la vôtre. Son âme, à lui, n'était plus là, mais la vôtre ne pouvait s'en détacher. La violence de la douleur a tellement pénétré votre âme que nous proclamons en vérité que vous êtes plus que martyr, parce que la compassion de votre cœur dépasse de beaucoup les souffrances du martyr dans la chair. L'amour au-dessus de tout amour a causé la mort du Fils. L'amour que personne n'eut jamais semblable a fait mourir Marie avec lui dans son âme. On peut se poser une question. Pourquoi Marie a-t-elle tant souffert? À cette question, on peut donner quatre réponses. Premièrement, Marie a souffert comme chrétienne parfaite. De même qu'il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire, de même le chrétien doit souffrir à sa suite. C'est la loi générale. Marie ne devait pas en être exempte. Plus près de Jésus en tout, elle devait être plus près de lui dans la vie, dans la voie douloureuse. Marie devait souffrir parce qu'elle est l'idéal de l'âme chrétienne, et que l'âme chrétienne ne s'épanouit pleinement que dans la souffrance. Deuxième raison, Dieu a choisi Marie comme coopératrice à l'œuvre de la rédemption. Marie nous a enfantés dans les douleurs au pied de la croix. Nous comprenons mieux combien elle nous a aimés et combien nous devons l'aimer en retour davantage. Troisième raison, Marie a souffert pour être la digne assistante de Jésus sur la croix. Jésus n'eut pas d'autre cœur humain qui le comprit. Seul le cœur de sa mère fut pleinement à l'unisson avec le sien. Seule Marie, au pied de la croix, a su distinguer, avec son cœur et sa foi, à côté de la scène d'horreur et d'iniquité, le plus grand est le plus bel acte dans l'histoire de l'humanité, l'acte incomparable de la charité de Dieu pour l'homme. C'est au pied de la croix que son cœur, comme un vase brisé, a répandu tout son parfum. Elle s'est unie à Jésus, non seulement par la compassion à ses souffrances, mais aussi par tout le mouvement de sa pensée et de son cœur. Elle s'est offerte avec son Fils, dans le grand sacrifice d'adoration, de reconnaissance, de propitiation et de demande. Et elle fit ce sacrifice au nom de l'humanité entière, élargissant son cœur pour que tous les hommes puissent prendre part, en elle et par elle, au grand sacrifice de son Fils. La quatrième raison, Marie souffrit pour être notre modèle dans l'épreuve. C'est en regardant Marie au pied de la croix que nous apprenons à souffrir. Nous comprenons mieux que la souffrance et l'épreuve ne sont pas des disgrâces, puisque Dieu a voulu en abreuver Jésus et Marie. Au contact de Marie souffrante, nous nous entraînons à faire de nos peines la matière qui alimente le feu de notre amour. L'épreuve, en effet, peut être dangereuse si nous en restons au niveau naturel. On peut se décourager, se révolter, vouloir se venger, haïr ceux qui nous font souffrir. C'est naturel. En Marie, il n'y a eu aucun retour d'amertume sur ceux qui ont fait souffrir Jésus. Elle s'est élevée par la foi et l'amour au-dessus des causes secondes, criminelles. Elle a vu la main de Dieu qui dirige tout pour le salut de l'humanité. Dans l'union la plus parfaite avec le cœur de Jésus, elle a accepté, voulu et adoré la sainte volonté de Dieu. Nous de même, nous devons avoir ce regard lorsqu'on est soumis, confronté à l'épreuve. Puisque nous sommes les enfants d'une mère si admirable, ne devons-nous pas nous efforcer d'avoir pour elle les tendresses d'un cœur tout filial? C'est ainsi qu'on consolera son cœur douloureux. Et la Vierge Marie veut que notre amour filial ait deux qualités, qu'il soit un amour fort et qu'il soit un amour réparateur. Un amour fort comme le sien, qui subordonne tout dans notre vie à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et un amour réparateur en offrant au cœur de Jésus de dignes réparations pour nos péchés et ceux du monde. Et cet amour filial, avec ses deux qualités, est à la portée de tous. Nous en avons un bel exemple vécu dans la petite Jacinthe de Fatima. Âgée de 7 ans, elle était animée d'un tel amour, et en 3 ans, cet amour l'a conduite à la sainteté. Elle meurt en odeur de sainteté à l'âge de 10 ans, et 15 ans plus tard, en 1935, son corps est transféré au cimetière de Fatima. On constata que son visage était resté parfaitement intact. Résumons en quelques traits cet amour fort et réparateur de Jacinthe qui nous montre que la dévotion au cœur douloureux et immaculé de Marie bien vécue conduit à la sainteté. Avant de tomber malade de la grippe espagnole, Jacinthe prit tellement à cœur les sacrifices pour la conversion des pécheurs qu'elle ne laissait passer aucune occasion. Par exemple, quand pour se mortifier, elle ne voulait pas manger, Lucie lui disait « Jacinthe, allons, mange !»« Non, répondit-elle, j'offre ce sacrifice pour les pécheurs qui mangent trop. » Ou alors, quand déjà malade, elle allait à la messe un jour en semaine. Lucie lui disait « Jacinthe, n'y va pas, tu ne peux pas, aujourd'hui ce n'est pas dimanche. »« Peu importe, répondit Jacinthe, j'y vais pour les pécheurs qui n'y vont même pas le dimanche. » À la fin de l'année 1918, Jacinthe est atteinte de la grippe espagnole, qui sera le commencement des souffrances qui allaient la conduire jusqu'au sacrifice suprême. Elle fut hospitalisée 2 mois, puis renvoyée à la maison avec une plaie ouverte sur le côté inguérissable. En 1920, elle est hospitalisée à Lisbonne, où on lui enlèvera 2 côtes, opération qui n'aura aucune conséquence bénéfique. Elle y mourra seule, loin de sa famille. Grande épreuve pour une petite fille de 10 ans. Pendant sa maladie, elle disait tout bas à Lucie, « Je sens une douleur tellement grande dans la poitrine, mais je ne dis rien à ma mère. Je veux souffrir pour notre Seigneur en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie, pour le Saint-Père et pour la conversion des pécheurs. » Et à l'hôpital de Villanova de Ourem, quand sœur Lucie va lui rendre visite, elle lui demande si elle souffre beaucoup. « Oh oui, je souffre, mais j'offre tout pour les pécheurs et en réparation au cœur immaculé de Marie. J'aime tellement souffrir pour notre Seigneur et notre Dame, pour leur faire plaisir. » Quand elle est renvoyée à la maison, avec la plaie ouverte au côté, une fois seule avec Lucie, elle lui dit « J'ai très soif, mais je ne veux pas boire. J'offre cela à Jésus pour les pécheurs. » Et sa souffrance est discrète. Elle dit à Lucie « Je ne veux pas que tu dises à qui que ce soit que je souffre, même pas à ma mère, parce que je ne veux pas qu'elle ait de la peine. » À l'hôpital à Lisbonne, après qu'on lui ait retiré ses 2 côtes, elle avait une plaie large comme la main, et elle en souffrait beaucoup. Son seul gémissement était « Aïe, aïe, Notre-Dame !» Puis elle ajoutait tout aussitôt « Patience, nous devons tous souffrir pour aller au ciel. » Et 10 jours après cette opération, elle s'éteignit paisiblement. Avec l'assurance donnée par Notre-Dame, qui lui a apparu 3 jours auparavant, qu'elle venait la chercher au ciel. Alors, suivons l'exemple de la petite Jacinthe qui n'a rien refusé à Notre-Dame. Elle ne laissait passer aucune occasion qui se présentait dans sa vie, voilà, soit des sacrifices volontaires, soit l'épreuve qui la visite et qu'elle a su justement faire valoir pour, eh bien, se préparer à rentrer au ciel. Demandons à l'Immaculée la grâce d'une tendre dévotion envers son cœur douloureux et immaculé, à l'exemple de Jacinthe, afin de hâter par notre sanctification son triomphe et la venue du règne du Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.